Ah, c'est vendredi. C'est vendredi, il fait tellement beau à l'extérieur. On va avoir un magnifique week-end. Comment vous allez? Est-ce que vous avez été au rendez-vous ce matin avec la belle gang de Boulevard Against le matin? Max Larouche qui est parti tout feu tout flamme là, vers son week-end, extrêmement content de cette température-là. Je pense que ça aide énormément au moral. Hein? Ce qu'on a, c'est un été qui perdure et ce sera le cas jusqu'à jeudi prochain. On se rendra pas là. D'abord et avant tout, salut! Comment vous allez? Est-ce que vous êtes en congé en ce vendredi? Avez-vous fait un long week-end de votre week-end, justement? Je vois, c'est un peu congestionné à certains endroits déjà sur les routes à Québec. On va s'installer, on va en jaser. Bienvenue dans l'heure CV à 10h01. Je m'appelle Pascal et je vous accompagne pour la prochaine heure. Très heureuse du canevas d'émission aujourd'hui. Honnêtement, ça me fait très plaisir de vous dire qu'on va accueillir, entre autres, le nouveau chef du Château Frontenac, Simon Renaud, en onde. Un gars qui fait la cuisine, qui est chef depuis des années, qui a passé par de véritables institutions et qui vient d'atterrir et qui atterrira, parce que c'est dans quelques jours, quelques semaines, au Château Frontenac, donc l'endroit par excellence touristique pour la cuisine de Québec, du Québec. Comment est-ce qu'on se rend chef du Château Frontenac? C'est quoi le processus? Quels sont les codes à respecter après avoir passé plusieurs années comme chef à d'autres endroits, puis on en parlera, de prendre de main de maître ce qui a appartenu à Jean Soulard pendant plusieurs années, ça veut dire quoi? Et c'en est un qui a fait partie de la brigade de Jean Soulard il y a plusieurs années. Simon Renaud a déjà travaillé au Château Frontenac en tant que stagiaire, et là, il se retrouve avec le commandement de ce méga, méga emblème de Québec. On va aller jaser tout ça. Il y a un côté historique, il y a un côté, oui, restauration, mais il y a surtout un côté touristique aussi. Est-ce que vous en avez déjà profité de la cuisine château, même si vous habitez ici à Québec? Ça va vraiment être le fun d'aller lui jaser. Si vous avez des questions, 418-971-1021 sur Twitch, parce que les caméras sont bien allumées en studio, ou encore justement sur le texto. Un autre qu'on accueille à l'émission dans quelques instants, c'est Pascal Robida, journaliste à Radio-Canada. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette vidéo-là d'un jeune qui est passé par le crime organisé, qui a réussi à s'en sortir en un seul morceau, mais qui a été défiguré par le feu. Je vous fais entendre un extrait. Pascal Robida, journaliste, a travaillé sur le dossier. Voici ce dont on va parler dans quelques instants.
Je suis parti commettre un incendie criminel qui s'est mal tourné et j'ai été pris dedans. Ça, c'est pour vous dire comment en une seconde, en une étincelle, ta vie peut changer. J'ai vu un feu découvrir une pièce, puis j'ai dû me battre pour ma vie, entre autres. Donc je suis sorti, j'ai éteint le feu. J'ai même essayé de prendre ma voiture à aller à l'hôpital, mais j'étais trop faible, du coup j'ai appelé les secours. Et je me suis retrouvé à l'hôpital dans un coma de quoi? Je me trouvais 5 semaines d'abord. Un peu plus tard, j'en ai fait un autre de 3 semaines dû à une réaction allergique, mais c'est pas le sujet aujourd'hui.
Le sujet aujourd'hui, où il s'en va et où on va en prendre des nouvelles, en fait, ce jeune-là avec Pascal Robida, c'est que c'est un jeune qui a été endoctriné par le crime organisé, qui a réussi à avoir un intérêt pour la POC du gain que ça lui amenait, un sentiment de communauté, mais aussi un sentiment d'argent, de puissance. Et c'est un cri du cœur qu'il lance aux jeunes qui voudraient passer par là, qui voudraient s'enrôler aussi dans des gangs de criminalité. Parce que maintenant, c'est son corps qui est brûlé à plusieurs degrés. Et comme je vous disais, il est défiguré. Et ça fait le tour, en fait. Jusqu'à maintenant, c'est des milliers et des milliers et des milliers de vues. On est à 41 000 visionnements en seulement 2 jours pour ce jeune-là. Ce qu'il cherche, c'est conscientiser. Puis on en parlera avec lui un peu plus tard à l'émission. Vous êtes dans l'heure CV, donc ce sera nos sujets pour cette heure-ci. Mais là, on accueille Mathias. Mathias, yes, qui est aux nouvelles avec moi, qui a prêté main forte depuis les derniers jours. Tu t'es dit, je la laisse pas toute seule.
Ben non.
Moi, ce que je connais, ce sont les nouvelles et je viens lui en parler. D'abord, salut Mathias, bon vendredi.
Bon vendredi. La fin de semaine s'en vient, Pascal. Faut pas que tu dors. Je sais que ça, c'est une grosse semaine que t'as eue, mais ça arrive, tranquillement.
Oui, et j'aime ça. Moi, c'est correct. On a du gaz à donner, on en donne, puis c'est surtout que cette émission là, c'est les auditeurs qui l'a fait. Donc, 88-971-1021 pour des salutations ou encore sur Twitch. Mathias, qu'est-ce qui a attiré ton attention?
Bien, ce matin, on apprend que Karl Malenfant, l'homme derrière le projet Saaklik, a rencontré des ministres, sous-ministres et employés politiques à plusieurs reprises. On parle de 25 rencontres au total qui ont eu lieu avec des membres politiques proches des ministres. Pour Geneviève Guilbeault, a elle-même rencontré trois fois individuellement l'homme derrière le projet, François Bonnardel et Éric Kerr, une fois chacun. Le cabinet d'Éric Kerr, des membres du cabinet d'Éric Kerr au cours des années, a rencontré au total 24 fois Carl Malenfant. Donc, c'est énorme. Carl Malenfant n'a pas, il a pas précisé si jamais... Il a dit au ministre si oui ou non il y avait eu un dépassement de coûts côté SAACLIC, qu'il y avait des dépassements de coûts prévus. Par contre, ce qu'il a dit, c'est que en tout temps, le conseil d'administration de la SAAC était au courant des dépassements de coûts. Donc, on va suivre ça de près parce qu'on devrait avoir plus de détails à propos de ces fameuses rencontres-là et de ce que les différents ministres savaient au cours de la prochaine semaine alors que Geneviève Guilbeault et François Bonnardel seront devant la commission Gala en fin de semaine. C'est finalement aujourd'hui qu'aura lieu le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Le but, c'est de s'approcher d'une entente de paix avec l'Ukraine. On dit du côté de Trump que c'est une première étape, mais que son objectif est d'inclure l'Ukraine le plus rapidement possible pour régler une entente de paix. On a également précisé qu'on avait 25% que cette rencontre-là se passe bien, que cette rencontre-là se passe mal, excuse-moi, contre 75% que ça se passe bien. On va suivre le tout de près, mais Carney a réaffirmé ce matin le soutien du Canada envers l'Ukraine, la rencontre qui devrait se dérouler autour de 15h30 cet après-midi.
Donc, on a un Canada Mark Carney comme premier ministre qui se range du côté de Volodymyr Zelensky, qui est à la tête de l'Ukraine depuis des mois. On a un Donald Trump qui semblait se ranger un petit peu plus du côté de Vladimir Poutine, qui est à la tête de la Russie, parce qu'il pensait que c'était la meilleure façon de négocier avec Vladimir Poutine. On avait exclu justement Volodymyr Zelensky des discussions en disant qu'il avait servi à rien depuis le début, donc pourquoi discuter avec lui? Puis il y avait un genre de rififi aussi au niveau de la gestion de l'argent qui avait été envoyé des États-Unis au niveau de l'Ukraine depuis cet éclatement de conflit-là. Ce matin, Volodymyr Zelensky disait qu'il comptait toujours sur les États-Unis, que c'était essentiel que cette réunion-là soit une voie réelle vers une paix juste et une discussion de fond. Est-ce que ça va arriver? On va surveiller ça, comme tu dis, autour de 15 heures, mais d'après moi, on aura des nouvelles autour de 16h, 17h et encore.
Le conflit d'Air Canada avec le syndicat des agents de bord continue, puis ça fait parler énormément. Là, la grève qui devrait commencer demain dans la nuit, minuit, cette nuit, là, de minuit 58, un record d'Air Canada qui va être enclenché à partir d'une heure et demie. Ce qui veut dire que tous les vols vont être annulés. On parle environ de 25 000 voyageurs par jour qui reviennent au pays avec Air Canada. Donc, ça va être une situation très difficile alors que les voyageurs vont s'accumuler de jour en jour. On apprend également que certains compagnies de transporteurs aériens profitent grandement de la situation. On parle notamment de vols Montréal-Barcelone qui sont passés de 420 $ à 2475 $ en 24 heures chez Air Transat. C'est énorme. Le Journal de Québec rapportait d'ailleurs une situation d'une famille québécoise présentement coincée en Belgique qui pourrait avoir à débourser jusqu'à 17 000 $ pour 6 billets de retour, ce qui est totalement énorme. Là. Donc,
il y en a qui en profitent, mais après, ouais. Là, c'est l'appel de l'offre et la demande. À un moment donné, quand tu as moins de sièges, tu peux monter tes prix.
Exactement, mais ça ramène sur la table la discussion, est-ce qu'on a assez de concurrence en milieu aérien au Canada? C'est sûr que cette grève-là pose cette question-là. Le ministre Bernard Drinville se réjouit qu'il ne reste que 4115 postes à pourvoir dans les écoles. On parle de 96% des postes d'enseignants qui sont présentement comblés. Si on compare à l'an dernier, c'était seulement 90% des postes. Donc, on est en meilleure voie que l'an dernier pour avoir tous nos enseignants à la rentrée scolaire.
Mais il manque tellement de personnel de soutien. Puis ça faisait la manchette aussi il y a quelques jours, comme quoi c'était presque ahurissant. C'était problématique. On avait une enveloppe qui avait été retirée pour aller recruter, payer ces gens-là. On a remis cette enveloppe-là sur les rails en ce qui concerne l'éducation. On a fait un volte-face, vous savez, du côté du ministre de l'Éducation. L'affaire est que super qu'on ait des enseignants. C'est la moindre des choses que 90% des postes soient comblés. Mais qui font partie de ces enseignants-là? Quelle scolarité ont ces gens-là? Quelle pédagogie ont ces gens-là? Est-ce des gens comme toi et moi, Mathias, qui vont prêter main forte? Puis tant mieux et heureusement qu'on a quelqu'un dans la classe. Vaut mieux certainement quelqu'un que pas du tout. Cependant, il y a une flagrante pénurie de personnel et de personnel de soutien. Donc, qui sont ces enseignants? Et aussi, ne jamais discarter et oublier côté personnel de soutien, on est en manque criant dans nos écoles.
Et d'ailleurs, le ministre Drainville qui a dit que présentement, on ne connaissait pas le nombre d'enseignants qui étaient qualifiés au sein de ces professeurs-là.
C'est le sujet.
Mais qu'on estime qu'environ un enseignant sur 10 au sein de ce 96%-là n'a pas son brevet.
Puis ça, c'est notre réalité depuis au moins 3 ans. L'affaire est que moi, ça m'intéresse de savoir qui est derrière tout ça. Parce que si on m'envoie dans une classe de mathématiques, par exemple, secondaire 4 et 5, c'est tellement loin que je ne suis qu'une présence adulte dans la classe. Ouais. Ça, je trouve ça important.
Ben, une présence adulte est importante, mais...
Non, je pense que c'est important de nommer que je serais inapte ouais. à enseigner
mais,
à ces enfants.
Mais mettons, toi, tu serais inapte, mais y a des... Je pense qu'il y a une évaluation à avoir parce que c'est pas nécessairement le manque de brevet qui fait en sorte que tu es inapte. Certaines personnes ouais. qui n'ont pas nécessairement de brevet ont des connaissances,
absolument.
Ont la passion pour le faire. Mais c'est sûr que du côté du gouvernement, il va falloir surveiller de près pour s'assurer que toutes les personnes qui enseignent à nos jeunes soient qualifiées.
Ah oui, absolument. Surtout dans ces années-là. Hein, puis dans certaines matières, c'est crucial pour la suite des choses. Le retard que tu crées chez certains jeunes, soit faute de pédagogie ou faute de qualification. Puis encore là, tu as raison. Là. Moi, j'ai toujours défendu les gens qui vont les prêter main forte, puis qui ne sont pas nécessairement les meilleurs pédagogues. Il va falloir laisser ça de côté pour un moment parce qu'on a pénurie de main-d'œuvre, mais ils sont qualifiés dans leurs études, puis dans leur, justement, compétence pour offrir une éducation à ces jeunes-là. S'il n'y a personne, puis tu vas chercher un docteur en mathématiques qui a l'air bête un peu, qui ne tripe pas sa jeunesse nécessairement dans le sens où, pas qu'il haït, là, ça c'est une limite, mais qui n'est pas capable d'entrer en grand contact, mais qui est capable d'offrir minimalement l'enseignement qu'on a besoin à ces jeunes-là, bien, tu limites le nombre de retards pour la suite. Mais c'est une société qu'on construit en ce moment. L'éducation, et je vais toujours le crier haut et fort parce que ça fait partie d'une valeur fondamentale pour moi dans le domaine que j'exerce depuis 12 ans, c'est fondamental que ce qu'on a dans nos classes soit de qualité. C'est la société de demain, c'est nos travailleurs de demain, c'est nos voteurs de demain. Là, je te parle pas d'endoctriner côté politique, comme on jasait hier dans Marceau le midi avec un docteur en neurosciences, là, comme quoi les jeunes ne peuvent plus avoir leurs propres idées, il faut qu'ils pensent comme leurs profs. Je vais pas là. Parenthèse classée, il faut leur offrir la meilleure éducation possible. On est au Canada.
Bien, c'est sûr, puis c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir
c'est
de
la
notre
province. C'est la
construction
totale de vos futurs politiciens, de ceux qui vont vous soigner, de ceux qui vont enseigner aux enfants des enfants, de ceux qui vont travailler dans n'importe quelle strate professionnelle. Faut y penser. C'est pas une histoire de laisser ça de côté. C'est un no-brainer que la qualité d'enseignement doit être à la hauteur de ce qu'on est ici comme peuple québécois, comme gens du Canada, comme occidentaux. C'est ce qui va nous, entre parenthèses, sauver pour la suite des choses. Face également à des négociations interpays, face à des valeurs morales et éthiques, ça fait partie de tout ce qui est conçu en société. Puis pour moi, de faire en sorte qu'on n'estime pas nos enseignants, qu'on n'écoute pas nos enseignants à leur juste valeur, je trouve ça difficile. Puis je le comprends que la dernière grève à l'automne passé, c'était l'automne passé, l'autre d'avant. A scindé la population, puis a fait en sorte que vous avez senti qu'il demandait peut-être les choux gras, mais regardez les enveloppes perdues au gouvernement, l'argent mal investi, puis après ça, posons-nous des questions sur est-ce que réellement on n'est pas capable de chérir ces gens-là qui choisissent l'éducation. T'as d'excellents profs, t'en as de très mauvais, mais le tri aussi est à faire là-dedans.
Oui, puis il y a quelque chose de frustrant aussi de la part du gouvernement. À la suite de ces négociations-là, ils ont beaucoup pesé sur le bobo qui s'était créé à la population. Dans le sens de toujours dire, on manque d'argent parce que la fonction publique, on a augmenté leur salaire. Oui, mais il y a un côté gestion financière, il y a un côté de gérer ton système d'éducation aussi. Puis une gestion saine des finances dans le système d'éducation ne se fait pas en faisant « je fais des coupures, finalement, j'en fais pas. Oh non, mais c'est pas des... » Je veux dire,
être sur le terrain, il faut parler à ces gens-là. Faut faire un tri parmi les bons, les mauvais enseignants. Faut vraiment valoriser ceux qui changent la vie de ces jeunes-là, qui les intéressent dans leur... Je suis certaine que vous nous écoutez en ce moment, là. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes à la maison, vous êtes au travail, vous êtes en vacances, au camping, peu importe. Puis vous vous souvenez d'au moins un ou une enseignante qui enseignait une matière que vous n'aimiez pas à la base ou même que vous détestiez et qui a réussi à attirer votre attention et même développer un intérêt sur cette matière-là parce qu'il était tellement passionné puis il était là pour les bonnes raisons. Je suis convaincue. Puis c'est ces gens-là qui font la différence. Puis c'est ces gens-là qu'on veut dans les classes. Mais pour ça, il faut leur donner une voix, il faut les aider à cheminer. Puis les pommes pourries, il y en aura toujours, puis ils vont contaminer les autres. Après, à suivre. Mathias, t'es en week-end, mon ami.
Exactement. Petit congé. Après ça, on revient la semaine prochaine. Fait que je vais être encore avec toi la semaine prochaine et dans le show du matin à Boulevard Against.
Ça va me faire plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup, Mathias. Passe un excellent week-end. Salut à tout le monde. On revient dans un instant. Indochine sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est Alice et June. De l'autre côté de cette chanson-là, on parle avec Pascal Robida, journaliste à Radio-Canada. Il y a un jeune qui a décidé de prendre la parole, un jeune qui est passé par le crime organisé, qui décide d'en faire un genre de porte-étendard, de dire « N'allez jamais vous coltailler avec le crime organisé. »
L'heure CV.
Quand je réfléchis, j'ai six cerveaux, en fait.
L'heure CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
Salut à tout le monde qui ont témoigné. Leur présence dans les derniers instants. On se parle aussi sur Twitch pendant les chansons. Si vous voulez venir nous rejoindre, bien, on a des caméras en studio, puis on fait un genre de semi-émission entre-temps. Sur Laurentienne Sud, ce que je vois à partir de ma forteresse, de mon château par les fenêtres, c'est bouchonné, mesdames et messieurs, à la hauteur justement de Le Bourgneuf. Là. Quand vous souhaitez aller sur la capitale en ce moment, j'ai l'impression que vous devez avoir un petit café glacé, vos lunettes soleil et l'heure CV. Dans la radio parce qu'il y a une portion d'attente qui semble assez importante. Et on me signalait également que pour aucune raison, sur la 40 Est, hauteur de Saint-Augustin, dans la courbe, là, le genre de croche, là, ça ralentit pour aucune raison. Soyez vigilants. Parfois, je sais qu'on préfère y aller comme ça sans GPS. Hein, ça vient un peu stimuler l'ego. Chose certaine, ces temps-ci à Québec, mettre le GPS nous épargne des bouchons de circulation, nous fait passer par des endroits un petit peu plus nécessaires pour justement la fluidité de la circulation. Moi, je vous invite à aller vérifier tout ça avant de vous déplacer. Sinon, ce sera sous le soleil aujourd'hui que vous allez faire vous déplacer. 19 degrés, c'est ce qu'on ressent à Québec. Ça va monter jusqu'à 25. Superbe journée encore pour ce soir et cette nuit. Superbe, fraîche soirée. Ça veut dire on ouvre les fenêtres, on fait rentrer l'air frais et ensuite, on referme ça en matinée pour le 28 degrés de samedi, donc de demain. 28 degrés, superbe journée et en nuit, ça va être alternance pluie-nuage pour dimanche. Même scénario, pluie intermittente et le retour du soleil est prévu lundi. Je vous jasais en début d'émission. Très heureuse d'aller jaser avec un collègue d'un autre média, Pascal Robida, qui est journaliste, oui, à Radio-Canada, spécialisé en affaires policières. Il est au bout du fil pour un sujet très, très important, le crime organisé chez les jeunes. C'est en montée également ici à Québec. On a vu des atrocités à travers les derniers mois. Et si on pense que c'est pas dans nos quartiers, on se leurre amplement. C'est plus juste à Montréal, c'est rendu partout. Récemment, une entreprise là, qui n'a rien à voir avec le crime organisé s'est fait incendier ses locaux et c'était un stress continuel. Je ne sais pas si vous êtes en affaires et c'est votre cas, mais quand tu es près justement de gens qui se coltaillent ou de gens qui se côtoient un peu trop de près côté crime organisé et ton entreprise fait partie d'un bâtiment, ça se peut qu'il y ait des risques d'incendie. Je dis ça, mais ça vient de se passer dans les dernières semaines auprès d'un homme d'affaires bien connu ici à Québec qui n'a absolument rien à voir avec ces gangs-là, mais qui se couchait pendant une semaine, presque à risque et dans le stress. Finalement, il y a eu des tentatives d'incendier le bâtiment dans lequel il se trouvait avec d'autres entreprises. Et ça s'est passé cette fois-ci, ça a fonctionné. Malheureusement, c'est un entrepreneur qui est assuré et qui devra quand même débourser près de $500,000 en pertes supplémentaires parce que tu n'es jamais assuré autant que tu le souhaites finalement quand ça arrive. C'est particulier. Mais en arrière de ça, c'est qui ces individus-là? Pourquoi ils se font avoir? Et on s'en va en jaser avec Pascal Robida. Bonjour, Pascal.
Bonjour, Pascal.
Merci. Oui, c'est ça. Merci d'être là ce matin avec nous dans l'heure CV. Tu t'attardes à tout ce qui est affaires policières depuis plusieurs années. Pourquoi avoir un intérêt marqué en 2025 là-dessus?
Parce que c'est plus pertinent que jamais que de s'intéresser aux mouvances du crime organisé qui a un impact directement dans le quotidien des gens. Ça concerne la sécurité publique. Et vous le voyez, vous, du côté de Québec, avec la guerre des stupéfiants, la guerre des redevances. À Montréal aussi, il y a des groupes émergents qui veulent s'imposer. Et ça se traduit beaucoup chez nous, pas par une guerre de redevances pour la drogue, mais par l'extorsion. Du côté de Laval, Montréal, il y a eu énormément d'incendies criminels dans des pizzerias en particulier.
On voyait ça beaucoup dans le temps de la mafia, par exemple, les pizzerias. Est-ce que c'est encore associé qu'à la mafia ou on est rendu plus large que ça?
Exactement. Et le principe, c'est le même. Hein. On surnomme ça la taxe de protection, la PIDZO. Et c'est un peu ce qui se passe à Montréal. Par exemple, dans le Vieux-Montréal, un commerçant, un lundi matin, va recevoir la visite du groupe émergent A, qui va lui dire « ça te coûte 5 000 $ par mois, sinon on t'incendie ». Et là, le mercredi, il y a le groupe B qui n'est pas du tout au courant que le groupe A est passé 2 jours auparavant et qui va réclamer la même somme. Mais peut-être même que le samedi, il y a le groupe C qui va passer sans savoir que 2 autres compétiteurs qui sont venus durant la semaine. Alors, les commerçants se retrouvent pris dans une guerre de pizzo, d'extorsion, et ils se font incendier pour vrai. Et ceux qui commettent des incendies, ce sont des jeunes. Écoutez, qui peuvent aller aussi jeunes que 13-14 ans jusqu'à 25 ans, mais ils ont en commun de recevoir des contrats par les réseaux sociaux, en particulier Snapchat, où il y a des utilisateurs anonymes qui offrent des jobs, comme on dit.
Ah, ouais.
Des fois, 1 000 $ le job. Puis là, les jeunes se rassemblent, ils disent « OK, on va faire ça pour se séparer le cachet. » Par la suite, ils vont. Mais ça, des fois, ça tourne mal. Et ça m'amène à vous parler de mon reportage d'hier, parce qu'il y a un jeune de Montréal de 23 ans qui s'appelle Ali, qui est bien connu dans le quartier Saint-Michel, et qui, lui, depuis 2 ans, va au gym avec une jambe amputée, il y a des brûlures au 2e, 3e degré sur le corps, il n'y a plus de doigts. Et les gens ont toujours pensé qu'il y avait eu un accident de voiture, mais il est passé aux aveux dans une vidéo choc mercredi en disant je me suis pas réveillé dans une maison qui brûlait, j'ai pas eu d'accident de voiture, ce que j'ai fait, c'est un incendie criminel où j'ai été coincé dedans. Et il raconte son histoire dans une espèce de témoignage vraiment touchant, je pense, de 5 minutes, où il le spécifie pour avertir les jeunes de prendre les bonnes décisions dans la vie, de ne pas répéter ses erreurs que lui a fait. Parce qu'au final, l'argent qu'il a reçu pour cet incendie-là, il a payé beaucoup plus cher que le cachet qu'il a reçu il y a 2 ans lorsqu'il a commis son crime.
On écoute un extrait, Pascal. On a ça sous la main. Ali, 23 ans, qui explique comment cette idée-là a germé dans sa tête, soit d'aller incendier un commerce pour une possibilité d'argent.
Dans ce temps-là, j'étais un jeune de Montréal, comme toi sûrement qui regarde cette vidéo. J'avais des ambitions, des rêves. Puis, à un moment donné, monétairement, ça a commencé à se corser. Donc, vu que j'en voulais plus, j'ai commencé à chercher une manière de faire de l'argent facile. Et au final, cet argent facile m'a coûté beaucoup plus cher que ce qu'elle m'a rapporté. Donc là, Ali, il se retrouve à l'hôpital. Il agonise. Il a mal tous les jours, toutes les heures. S'il n'est pas dans le coma, il est en douleur. S'il n'est pas anesthésié, il est en douleur. S'il n'est pas sous antidouleur, il est en douleur.
Il est brûlé sur une majorité de son corps. Quand je revois ces images-là, je trouve ça assez troublant parce que son visage, il est défiguré, là, Pascal.
Oui, absolument. Son corps est mutilé à vie. Il va porter les marques de son erreur de jeunesse, de son erreur de jugement. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Toute sa vie. Et ce qui m'a accroché, moi, dans cette vidéo-là, c'est que j'ai déjà fait des entrevues avec des jeunes qui sont non soit dans le crime organisé ou qui s'en sont sortis, mais toujours à visage couvert. Et c'est l'une des premières vidéos depuis les dernières années où l'on voit quelqu'un à visage découvert et qui s'assume totalement dans les gestes qu'il a commis. Il en prend la responsabilité et on sent vraiment l'introspection. Et je pense que vous avez écouté l'extrait intégral, Pascal. On sent vraiment l'introspection de ce jeune homme-là.
Oui.
Il a une vieille âme, là, la façon dont il s'adresse aux autres jeunes, parce qu'il faut dire que c'était pas aux médias qu'il le faisait. C'était vraiment aux jeunes de son quartier de Montréal-Laval. et qui sont toujours recrutés et de plus en plus jeunes, de ne pas prendre cette direction-là, parce que si on commet un meurtre, on peut aller à la prison pour les 20 et 25 prochaines années. On peut se blesser gravement comme lui, ça lui est arrivé. Et c'est vraiment un message de prévention. Puis quand j'ai parlé de ça avec des intervenants sociaux sur le terrain, ce qu'ils disent, c'est que c'est un puissant outil de communication. Parce que quand ça vient de la bouche d'un jeune, c'est beaucoup plus efficace et crédible que de la bouche d'un adulte qui n'a pas vécu la criminalité, mais qui veut seulement faire la prévention.
Oui, puis on se pose la question, est-ce que c'est justement tout ce qui est police ou enquêteur ou gens qui voulaient faire de la prévention qui ont poussé ce jeune-là à faire cette vidéo-là? Puis ce qu'on comprend, c'est pas du tout, c'est initiative personnelle. C'est un jeune homme qui... Je m'excuse du... C'est pas un jeu de mots, mais qui n'est pas une tête brûlée, puis qui décide de raconter son histoire en disant « Hey, la pote du gain, là, il y a réellement une question à se poser en arrière de ça pour un acte criminel, de se dire « je pourrais être payé, ça va me rémunérer un montant alléchant », mais ça se peut, effectivement, que ça se termine en choses complètement violentes, comme un peu la mort du jeune homme de 14 ans ici, sur la rive sud de Québec, là, qui a un corps qui avait été retrouvé près d'un local des Hells Angels. Puis on se demandait, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Aussi comme son histoire au jeune Ali, 23 ans, d'être pris dans l'incendie qu'il a souhaité allumer et finalement d'être brûlé sur une grande partie de son corps. Est-ce que, Pascal, c'est régulier au palais de justice de Montréal, puis on peut le transposer un peu à Québec, mais souvent, ça commence du côté de Montréal, ces histoires-là, de voir des jeunes arriver? Est-ce qu'on en entend assez parler dans les médias par rapport à la proportion de ce qu'on voit dans nos palais de justice?
Oui, et du côté, quand on parle avec des procureurs ou à la direction des poursuites criminelles et pénales, le nombre de dossiers liés à des crimes, des décharges d'armes à feu, des incendies criminels, des crimes autrefois associés à des adultes, ben c'est de plus en plus fréquent, non seulement en chambre de la jeunesse, mais aussi au tribunal, à la cour supérieure, avec des jeunes qui ont à peine 18-19 ans, là, qui viennent de passer la majorité. Et écoutez, oui, je pense que c'est efficace, ce genre de vidéo-là. D'ailleurs, je parlais avec deux enquêteurs au crime organisé dans le Grand Montréal et eux-mêmes ont pris cette vidéo-là et l'ont fait écouter à leurs propres enfants, imaginez hier. Oui. Donc, ça prouve que le message passe. Et oui, c'était une vidéo spontanée parce que quand j'ai parlé avec un travailleur social, Mohamed Mimoun, qui lui est dans le quartier Saint-Michel depuis une vingtaine d'années, et il essaie depuis 2 ans, lui, d'amener Ali dans ses groupes privés pour conscientiser les jeunes à ne pas emprunter le chemin de la criminalité. Et il refusait depuis 2 ans. Et lorsque cette vidéo-là est apparue mercredi, il a pris tout le monde par surprise. D'ailleurs, depuis ce temps-là, je pense qu'il est un peu dépassé par l'impact de son témoignage. Mm-hmm. Je sais que TVA à Montréal ont tenté de le joindre, d'autres quotidiens, nous-mêmes. Et depuis 24 heures, je pense qu'il a tout simplement cessé de répondre à ces messages parce qu'il est inondé aussi de réactions du public qui ont été, je pense, interpellées par son message.
Est-ce qu'on peut se poser la question pour le futur, Pascal? T'es journaliste à Radio-Canada, mais spécialisé dans tout ce qui est affaires policières, sur la facilité des réseaux sociaux pour les criminels afin d'entrer en contact avec nos jeunes. De quelconque famille que l'on provienne, il semble y avoir maintenant une facilité à entrer en contact avec ces jeunes-là, qui avant, bon, étaient plus autour des centres jeunesse et autres, c'est quand un enfant était un peu laissé à lui-même dans une enfance qui est moins facile que celle que d'autres. On a l'impression que la question est à se poser pour le futur de nos jeunes.
On est dans l'ère numérique, hein, et je vous donne un exemple très fictif. Vous et moi, on est dans un groupe sur Snapchat, on voit un contrat passer, puis on dit est-ce qu'on se sépare 5 000 $ pour juste aller mettre le feu dans un restaurant, on connaît pas du tout l'adresse, on va nous la donner plus tard. Et là, on accepte, on met le feu, on prend photo de notre incendie criminel et par la suite, on reçoit un virement Interac d'un compte anonyme et on est payé. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi facile que ça. Maintenant, l'enjeu pour les policiers, c'est de courir après des jeunes qui n'ont aucun passé criminel et qui agissent spontanément dans le but de se faire de l'argent. Et vous comprendrez que lorsqu'on a 14, 15, 16 ans, 1 000 $ cash dans nos poches, Pascal, c'est beaucoup de sous. Donc, ça prend pas grand-chose pour impressionner des jeunes, l'appât du gain, le glam, le fame, là, comme on appelle ici dans les rues de Montréal, pour avoir le respect des vétérans de la rue, de passer pour un tough, et puis d'avoir le respect de son entourage pour se faire un nom. Et ça compte beaucoup, ça, la réputation quand on est adolescent, et les organisations criminelles jouent beaucoup sur ce besoin-là, ce besoin d'émancipation des jeunes, mais qu'ils ne le font pas de la bonne façon.
Je sais que tu as des enfants, Pascal, et puis ça doit être une question absolument difficile à chaque jour de sa vie de se dire hey, comment on intervient dans ce monde numérique-là, qui est complexe, qui est hors de la portée de nos mains. Parfois, moi, quand j'avais vu que la localisation sur Snapchat était automatiquement ouverte et elle était précise au point où on peut voir, que ce soit ton ami ou pas, mais du moins si tu es en contact avec cette personne-là sur Snapchat, la personne peut voir exactement t'es à quelle adresse, dans quel quartier, dans quel pays, dans quel secteur. C'est précis, là, mais c'en est troublant. Et ça, c'est préalablement ouvert, donc autorisé. Il faut aller en faire en sorte que ce soit inactif par nous-mêmes, de façon manuelle, si on veut l'enlever. Et ça, c'est un des réseaux principaux utilisés par nos jeunes. Il faut rester jeune et au courant de cette technologie-là, j'ai l'impression, pour être capable de se rassurer au quotidien.
Oui, puis ça change des modes dans les plateformes. Moi, je suis de la génération Facebook, puis je peux vous dire que pour mon enfant qui est au primaire, il sera probablement jamais sur Facebook. Parce que c'est le réseau social associé à ses parents et ses oncles. Donc, puis la façon dont les réseaux sociaux fonctionnent et les références de communication évoluent et changent aussi. Snapchat, c'est pas toujours évident. Les fonctionnalités, c'est pas aussi simple que Twitter, par exemple, maintenant X ou Facebook. Même chose pour TikTok. Donc, il y aura d'autres réseaux sociaux qui vont apparaître. Et ça évolue vite. On est dans l'ère numérique. Et là, en plus, ajoutez à cela l'intelligence artificielle. Pour les corps de police, pour vrai, Pascal, c'est difficile de suivre la vitesse de l'évolution de l'ère numérique et de suivre justement comment les jeunes s'adaptent vite au mode de communication que une ou deux générations en arrière d'eux suivent à peine. Là. Donc, moi, j'ai 45 ans et j'ai toujours pensé que j'étais bien connecté, bien au courant des réseaux sociaux, mais quand je regarde comment mon fils m'en parle, des fois, je me dis que je vieillis peut-être plus vite que je pense. Donc, c'est un enjeu, oui, pour les parents et pour les policiers, absolument, là, pour le futur.
Et pourtant, tu sais, Pascal, c'est constant dans ta vie de voir justement au palais de justice de ce genre de dossier-là, puis d'en être alerte. Alors, c'est fascinant, c'est intriguant en même temps. Il y a quelque chose de le fun de voir qu'on évolue technologiquement, mais il faut voir aussi tous les angles morts de ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'heure CV, Pascal Robida.
Au revoir.
Une bonne journée. Pascal Robida, qui est journaliste à Radio-Canada spécialisé en affaires policières. Pendant qu'on jasait, vous avez écrit au 88-971-1021, puis je pense qu'il y a des parents qui prennent, qui ont une réalisation du fait que oui, c'est pas juste des jeunes, effectivement, qui sont un peu poqués là, de leur enfance. Non, l'appât du gain, hey, pensez à ça, là, 5 000 $ quand vous êtes jeune, dans une société où actuellement le luxe, l'alcool, les vêtements est priorisé et te donne un genre d'aspect hiérarchique plus avantageux. Là, tu montes dans la hiérarchie. Jeune, t'as le goût. T'sais, souvenez-vous, nous autres, on arrivait habillés avec les vêtements de nos frères et nos sœurs. Je pense que c'est encore ça, si vous étiez le dernier de la fratrie. Mais il n'y avait pas cette... Il y en avait une pression superficielle. Oui, à l'adolescence, elle est forte. Mais ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux actuellement. On dénombre beaucoup de dépression, d'anxiété de la part des jeunes pour le comparatif que ces réseaux-là amènent. Nous, on le voyait à l'école, mais on ne le voyait pas sur une plateforme où des milliers, des milliards de personnes sont connectées et nous mettent au visage chaque jour ce qu'on n'a pas. 5 000 $ pour un garçon, une jeune fille de bonne famille peut être très alléchant quand c'est une histoire de ne pas faire du mal à du monde, mais de créer un incendie. Ça peut mal tourner. Ça peut être un engrenage très particulier. C'est un des sujets que je trouve les plus importants en ce moment. Restez là à leur CV dans un instant. On accueille le nouveau chef du Château Frontenac, Simon Renaud. On s'en va faire un tour en restauration, mais aussi dans l'histoire, parce qu'effectivement, c'est le patrimoine. C'est un élément par excellence de tout ce qui est aspect touristique ici à Québec. Puis c'est sûr que quand tu t'en vas sur le fleuve, quand tu es sur la rive sud ou que tu passes à côté, tu es fier du château Frontenac. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des murs? Qu'est-ce qui va se passer à travers cette restauration-là qui prend de l'ampleur aussi? Et le guide Michelin qui est arrivé, peu importe. Qu'est-ce que conçoit notre château Frontenac? Simon Renaud est rendu chef du château Frontenac. De quelle manière ça s'est passé? On s'en va lui jaser tout de suite après ce court bloc publicitaire. Jean Leloup, Vallée des réputations, avant tout à Boulevard 102.1. On est de retour à l'émission L'heure CV. Ça va vite, cette heure-là, mais vraiment plaisant de vous accompagner. Puis je pense que j'en accompagne quelques-uns dans le trafic. Je le dis, là, mais il y a déjà des bouchons de circulation à Québec là, à 10h45. C'est certains secteurs plus névralgiques, je vais dire comme ça, mais jamais à cette heure-ci. Donc, si vous avez des informations pour nous, 418-971-1021, je vois là sur caméra et même dans le hublot de ma grande tour ici que Laurentienne Sud, toujours bouchée, ça semble être de pire en pire dans les dernières minutes. En fait, c'est jusqu'à l'embranchement pour entrer sur la capitale où le ralentissement se fait sentir. Même, je dirais, les véhicules sont à l'arrêt. Donc, ralentissement, c'est presque encourageant. Sinon, sur la 40, direction Saint-Augustin, il paraît que dans le croche, dans la courbe, là, il y a un ralentissement sec. Soyez prudents. Je sais qu'il y a des constructions aussi dans ce coin-là. C'est majeur ce qui se passe. Tu nous accompagnes dans le trafic. Salut, Hubert! Enfin, j'espère que ça va être somme toute agréable, mais je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'on s'en va jaser à quelqu'un qui vous a certainement fait manger dans les dernières années. Il a certainement joué dans votre assiette sans que vous le sachiez. Il est passionné depuis très, très, très longtemps. 31 ans d'expérience en cuisine hôtelière, en événementiel au Québec, à l'international également. Et il s'en va diriger l'équipe de chefs qui veille à la qualité de nul autre que le Château Frontenac. Il va aussi superviser les cuisines des restaurants Champlain, Le Sam, le Bistrot Évolutif, le 1608 Bar, la Place du Frein, les banquets, les traiteurs, le service à l'étage. Finalement, c'est une brigade de plus de 126 employés que ce chef exécutif a accepté de diriger dans tout ce qui est expérience globale du Fairmont Château Frontenac. J'espère que je ne viens pas de le stresser. En même temps, après 31 ans, pourquoi pas un nouveau défi? Salut Simon Renaud.
Salut Pascal, comment ça va?
Ça va très bien. Hey, on avoue-tu quelque chose tout de suite, admettons, Simon?
On y va.
OK. On se connaît depuis, j'ai l'impression, une vingtaine d'années.
Facilement, parce que, ben, disons-le, t'as gardé mes enfants.
J'ai gardé tes enfants pendant longtemps, plusieurs années de suite, parce que, justement, oui, t'étais déjà chef. Puis un quotidien de chef, ça fait en sorte que t'as besoin d'une aide extérieure pour tout ce qui est horaire atypique. Puis moi, j'ai accompagné, en fait, votre famille dans tout ça pendant quelques années. Puis je me demandais pourquoi je tripais sur la restauration à ce point-là. Ce matin, en préparant l'entrevue avec toi, Simon, parce que malgré tout, on jase, mais pas toujours de cuisine, on s'entend. Je pense que ça vient de toi. Ça vient du passionné que t'es. Puis tu vas réaliser un rêve là, en étant chef du Château Frontenac.
Oui, tout à fait. Parce que, écoute, peut-être que tu l'as lu à gauche à droite. Là. Moi, j'ai commencé comme stagiaire au Château Frontenac à l'âge de 18 ans. Puis j'étais finalement dans la brigade de Jean Soulard qui était chef au Château Frontenac. Puis ça m'a vraiment impressionné. Puis ceux qui sont, tu sais, ma famille, mes proches le savent, je l'ai dit très rapidement à cet âge-là, un jour je rêve d'être chef au Château Frontenac.
À 18 ans.
Aujourd'hui, je réalise ce rêve-là. Oui, exactement.
À quel âge, Simon, si je me permets d'être grossière dans ma question?
Oui, à 18 ans. Donc, écoute, ça faisait quelques années que je faisais des petits jobs de restaurant à Québec, même en suivant mon cours de cuisine. Puis, quand j'ai terminé mon cours de cuisine pour le stage, là, j'ai quitté les cuisines d'un restaurant familial pour aller travailler au Château Frontenac. Et déjà là, je mettais la barre haute dans ma carrière, puis dans ma tête.
Et tu réalises ton rêve rendu à quel âge, Simon?
Ben là, 49, je vais avoir 50 ans à la barre du Château Frontenac.
Mais 31 ans quand même de cuisine, puis tu sais, c'est pas rien, je veux dire, de travailler dans des institutions. Ton parcours ressemble à quoi pour mettre l'appétit à nos auditeurs?
Écoute, mon parcours, là, je suis vraiment choyé. J'ai commencé au château. Après ça, j'ai dit, bon, ben, il faut que j'aille chercher des expériences. Il faut que je touche à tout, que je vois tout. J'étais vraiment affamé d'en apprendre de plus en plus et très rapidement. La personne que j'étais, qui fait très rapidement tout ce qu'il accomplit, mais de la bonne manière, t'en fais pas. J'ai été sous la barre, sous la tutelle de Marie-Chantal Lepage au Manoir Montmorency, puis je dirais que Marie-Chantal m'a mis du gaz sur le feu que j'avais en moi, là, vraiment, là, à me allumer. Et puis, j'ai gardé cette flamme-là allumée tout le long. J'ai décidé d'aller dans une carrière d'hôtellerie. Ça a commencé avec l'hôtel Gouverneur à Sainte-Foy, puis le Radisson à Québec, qui est rendu le Delta par Marriott. J'ai fait mon premier saut à Montréal pour Delta Montréal. J'ai été au Château Mont-Saint-Anne à Québec. J'ai fait le Hyatt Regency Montréal au Complexe des Jardins, devant la Place des Arts.
Tu t'occupais de tout ce qui est Prix Gémeaux aussi. Là. Tu t'occupais de tout ce qui est nourriture au Prix Gémeaux. C'était des grands événements, là.
Oui, pendant 7 ans, c'est moi qui gérais le gala des Prix Gémeaux. Donc, l'avant-gala, un gros cocktail dînatoire pour à peu près 1000 personnes, y allait au gala et on y revenait après le gala, un autre cocktail dînatoire complètement différent pour 1500 personnes. Donc, c'était des très gros volumes déjà à cette époque. Fait que, oui, j'ai vu un peu, j'ai vu de tout. Je pense que toutes mes expériences, comme, tu sais, j'ai avec le Hilton Québec, puis maintenant le méga volume que je gère, Maestro Culinaire au Centre des Congrès, c'était vraiment des marches, je pense, de l'escalier qui me permettaient d'aller vers cet accomplissement-là qui m'attend, le Château Frontenac. Parce que sans ça, je suis persuadé que j'aurais jamais eu le bagage puis les reins assez solides pour justement gérer toutes les points de restauration que tu as nommés tantôt.
C'est quoi le processus pour être chef au Château Frontenac? C'est une institution autant touristique que dans la ville. C'est difficile, il faut être ferré, il faut avoir du front. Ça ne doit pas être facile de choisir le candidat. Toi, tu as été sélectionné, tu as été choisi, Simon Renaud. Est-ce que ça a été complexe?
Ben oui, je vais essayer de te faire une histoire courte parce que ça a été un long processus. Ça a duré 3 mois. Puis, tu sais, on peut comprendre, c'est un poste extrêmement important pour le château, pour les gens de la ville aussi. Tout le monde se représente dans le château. Il nous appartient, puis on est fiers du château. Fait qu'on on veut que le choix soit bon. Donc, ils ont pris leur temps. Moi, comment ça a commencé, je te dirais, j'ai été approché voir si je voulais embarquer dans le processus d'élimination. Puis, ben, tu sais, je cherchais pas, honnêtement. J'ai travaillé fort avec le maestro. On s'est fait une super équipe. Mon équipe est ici. Puis c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire le saut parce que je sais qu'il va y avoir une belle continuation. J'ai vraiment une super équipe chez Maestro Culinaire. Donc, j'ai embarqué dans le processus. Grosso modo, j'ai eu à peu près 6-7 entrevues en vidéoconférence d'une heure, dont une avec un très haut placé là, de la chaîne Fairmont qui est basée à New York. Donc, processus en processus, on avançait tranquillement. Aussi des tests obligatoires chez Fairmont pour on parle de tests d'aptitude et psychométriques, c'est des tests informatiques. Mm-hmm. Et la dernière étape qui est vraiment qui m'a impressionné. C'était comme un genre de get-together, là, une rencontre, puis pour pouvoir présenter ma vision de l'offre culinaire à l'équipe en place, l'équipe des chefs. Donc, me présenter aux chefs, connecter avec eux autres, qu'on puisse aisément échanger ensemble, et aussi avec le comité exécutif. Puis, ce qui est fantastique, c'est qu'ils ont donné le fardeau à l'équipe des chefs de devoir accepter ou non que je devienne le chef du Château Frontenac. Donc, pour moi, ça en dit beaucoup sur le côté famille et le côté humain de la compagnie du Château Frontenac. Là, c'est la première fois dans toutes les carrières, tous les processus que j'ai vécu que je vois ça.
Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de personnalisé de Simon Renaud Château Frontenac pour la suite des choses? Est-ce qu'on vous laisse un genre de possibilité de mettre votre marque à l'agent Soulard quand on accède à ce poste-là?
Tout à fait, parce que je te dirais que ça a été une de mes questions, moi, ayant fait plusieurs bannières, tu sais, j'ai fait Delta, Hilton, Hyatt, chacune des bannières a ses standards, puis quand je discutais justement avec le haut placé de Fairmont, tu sais, à New York, je posais des questions un petit peu sur les standards, puis ils m'expliquaient que, ben, chez eux, comment ça fonctionne, c'est qu'on vous donne une trousse d'outils, dans le fond, à mettre à votre main et à adapter à votre marché. Donc, si tu vas au Château Frontenac ou si tu vas au Lac Louise, ben, t'auras pas nécessairement les mêmes produits obligatoires qui doivent être sur le menu. Ça, c'est vraiment génial, là. Ils te laissent vraiment faire un menu ou une offre adaptée à ta région.
En une minute, peut-être, Simon, ça va vite leur CV. Est-ce que dans ta planification de menu, on a le droit d'avoir quelques petits insights en ce moment? Qu'est-ce qui te tient à cœur, toi, pour la future table du château?
Ah, écoute, moi, ça a toujours été ça, puis je vais pas changer. Je pense que c'est pour ça aussi que ça fait partie d'une des raisons que j'ai été choisi. Moi, mon cheval de bataille, c'est les produits d'ici, les produits locaux, mais pas juste les produits, les producteurs, les maraîchers. Moi, j'ai tout le temps voulu aller les connaître pour voir. Tu sais, le chef, il a une histoire. Le château, il a une histoire, mais le producteur, il a une histoire, lui aussi. Si je comprends pourquoi, puis c'est quoi sa vision, comment il sait, je vais être encore plus apte à le mettre à l'honneur puis à vendre son produit sur ma table. Fait que ça va toujours être ma ligne directive. On y va avec, tu vois, des plats locaux, une cuisine accessible, une cuisine bien faite, puis qui va suivre les tendances culinaires.
En terminant, est-ce que c'est aussi très accueillant pour les gens de Québec ou majoritairement c'est pour le touriste? Est-ce que ça t'importe pour la suite?
Ben moi, je pense que c'est un tout, hein. On est un emblème. Le château est un emblème pour Québec puis pour le Canada aussi. Donc on doit continuer à mettre de l'avant nos produits. Les gens qui viennent au château, ils veulent découvrir notre culture. Fait que c'est le temps vraiment de highlighter nos produits.
De le faire. Merci beaucoup, Simon Renaud. Félicitations. Tu es le nouveau chef du Château Frontenac. On va pouvoir te voir à l'œuvre dans les prochaines semaines, les prochains mois. On est bien fiers que ce soit un gars de chez nous, un gars qui connaît la région, qui a envie de la faire briller, qui soit aux commandes de cette cuisine emblématique et mythique. Là, merci d'avoir été avec nous dans leur CV.
Merci, Pascal.
Salut. Bien, ça termine l'émission. Alors, en ce vendredi 10h55, je vous remercie d'avoir été de la partie pour, j'appelle ça le cours de la cour arrière de jeu. On a tellement de fun. Et 88-971-1021, vous le faites résonner. J'apprécie aussi vos suggestions parce que vous faites l'émission partout à Boulevard 102.1. On prend vos commentaires, on prend vos suggestions en note. Merci d'être participatif comme ça. On ressemble à une grosse famille et c'est vraiment apprécié. Hey, leur CV, c'est terminé, mon. On s'en va dans Marceau le midi. Yannick s'amène, tout feu, tout flamme. Pour le meilleur et pour le pire, pour Marceau le midi à Boulevard 102.1.
Ce segment d'émission.